Et c'est dans le garage de la maison que l'ultime cauchemar de la jeune femme aurait débuté.
On l'a conduit dans le garage de Ropensviller, où elle sera battue, tant par Gérard Quénemont et Bernard Boulanger.
À l'aide de coups de poing, de coups de pied, de coups de bâton. D'ailleurs, on a retrouvé des bâtons et un tuteur abîmés dans ce garage.
On pense effectivement que le fait de l'avoir battue, c'était tout simplement pour que cette fois-ci, Sylvie ne puisse pas se débattre une fois arrivée au bord du canal.
Mardi 29 juillet 2008, sur le Grand Canal d'Alsace. Comme tous les jours, de nombreuses embarcations naviguent sur les eaux.
Il est à peu près 15h15, et un batelier, alors plus exactement la brigade fluviale suisse, découvre dans l'eau, au niveau de l'écluse de Kems, un cadavre.
Immédiatement, il prévient les services de la gendarmerie qui arrivent sur place très rapidement. Le corps est sorti de l'eau et mis sur la rive. Et là, on découvre que c'est le cadavre d'une femme.
On sait juste que donc, c'est une femme d'une trentaine d'années environ, les cheveux châtains, longs. Elle porte une Vierge Marie autour du cou.
Et elle porte un tatouage au poignet en forme d'Y. Un Y qui est tatoué sur son poignet.
On a une personne dans un état vraiment catastrophique. Un corps dans l'eau, avec tout ce que ça comporte, qui a gonflé. C'est vraiment pas très beau ce que les gendarmes retrouvent. Mais il faut quand même essayer de trouver qui est cette personne.
Aucun papier d'identité n'est retrouvé sur le cadavre. Pour les gendarmes, le mystère est total. Qui est cette femme? Et surtout, s'agit-il d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide?
Le canal d'Alsace, c'est vraiment le lieu où on repêche régulièrement des cadavres. C'est beaucoup de gens qui se suicident. Il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a très souvent.
Sur place, le médecin légiste effectue les premières constatations. Malgré l'état de décomposition du cadavre, il remarque immédiatement des traces suspectes.
On voit l'horreur, quoi. On se rend compte qu'il y a énormément de traces de coups, on se rend compte qu'il y a de multiples fractures, vraiment un nombre incalculable de fractures.
On découvre donc effectivement ces lésions traumatiques au niveau de la tête, au niveau du crâne, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, des fractures et une fracture très importante puisque le médecin légiste va même parler d'éclatement de l'omoplate.
Des blessures multiples peut-être dues à une chute ou à un accident. Mais rapidement, un détail troublant attire l'attention des gendarmes.
Le cadavre ne porte pas de sous-vêtements. Donc les gendarmes qui ont un peu l'habitude de ce genre d'enquête difficile s'orientent éventuellement vers la piste sexuelle. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'elle a été violée. Parce que c'est vrai que souvent, dans des crimes sexuels, les victimes de viol ont leurs sous-vêtements arrachés, enlevés.
Le corps est immédiatement envoyé à l'Institut médico-légal de Mulhouse pour y être autopsié. Le légiste n'exclut pas que la victime ait subi des violences sexuelles. Mais le corps est resté trop longtemps dans l'eau et son état ne permet pas d'affirmer qu'il y a eu viol. D'après le médecin, la mort remonte à au moins une dizaine de jours. La jeune femme a été rouée de coups, mais ce n'est pas ce qui l'a tuée.
Non seulement elle a été battue presque à mort, pas tout à fait, mais en tout cas presque à mort, et qu'elle a été jetée, projetée à un moment donné dans le Grand Canal et qu'elle est morte noyée.
L'examen minutieux du corps révèle l'extrême violence qu'a subie la victime avant de mourir. Plus d'une trentaine de blessures sont relevées par le légiste.
Les lésions et surtout les hématomes sont d'âge variable. Jusqu'au jour du décès, on peut établir, en tout cas au moment de l'autopsie, que cette jeune femme a été battue depuis a priori plusieurs mois, puisque les hématomes sont de différentes couleurs.
C'est rare, très rare de constater autant de lésions, autant de fractures sur un corps. À partir du moment où l'autopsie est faite, on sait c'est un crime, et on sait que c'est un crime ignoble.
Une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire. L'urgence pour les gendarmes, c'est désormais d'identifier la noyée. Dans les fichiers des personnes disparues, aucun signalement ne correspond à la mystérieuse femme du canal. Les gendarmes décident alors de lancer un appel à témoins dans les médias.
Le lendemain ou le surlendemain de la découverte du corps, il nous demande de passer un appel à témoins avec quelques éléments.
Une photo de cette robe, la photo des bijoux qui ont été retrouvés, et on nous demande de passer un petit texte. Donc nous, on le met à notre sauce, on rédige un petit papier et on met le numéro auquel les gens peuvent appeler. C'est le numéro de la brigade de recherche à la gendarmerie de Mulhouse.
Deux jours plus tard, les gendarmes recueillent enfin un témoignage qui va s'avérer très troublant. Août 2008, un homme se présente à la gendarmerie de Sirens. Il s'appelle Bernard Boulanger et il a des révélations à faire.
Monsieur Boulanger est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui a le visage marqué quand même par la vie dans la rue, puisqu'il a été SDF pas mal de temps. On sent qu'il y a une certaine fragilité, un problème d'élocution. C'est quelqu'un qui, à l'époque, était pas mal négligé.
On sent, je vais pas dire le tiers-monde, on sent le quart-monde, on sent un petit peu la misère sociale.
On se pose la question de savoir s'il ne présente pas une déficience intellectuelle, voire même des troubles psychologiques ou psychiatriques.
Face aux gendarmes, Bernard Boulanger affirme connaître l'inconnu du canal. D'après lui, elle s'appelle Joséphine Braun.
Joséphine Braun serait une ressortissante suisse, sans papier, venant en France dans une semi-clandestinité, serait l'amie de ce marginal Bernard Boulanger.
Bernard Boulanger décrit son amie aux enquêteurs. Petite, cheveux châtains, il précise qu'elle a un tatouage en forme de Y sur le bras. Ce que raconte le marginal semble donc correspondre parfaitement avec l'inconnu du canal.
Les gendarmes font le rapprochement avec le cadavre qui a été découvert quelques jours plus tôt, 3 ou 4 jours plus tôt, puisque le signalement semble correspondre.
L'homme raconte ensuite ce qui s'est passé sur les bords du canal.
Il explique aux enquêteurs qu'il est allé se baigner avec son amie qu'il dit s'appelait Joséphine Braun.
Ils ont pique-niqué, ils se sont disputés, ont échangé quelques coups. À un moment donné, cette fameuse Joséphine Braun décide d'aller se baigner, alors que Bernard Boulanger souhaite aller acheter une pizza, c'est ce qu'il explique en tout cas. Il la voit disparaître dans un tourbillon d'eau et indique qu'il n'a rien pu faire à ce moment-là.
La jeune femme noyée s'appellerait donc Joséphine Braun, et d'après Bernard Boulanger, elle serait de nationalité suisse. Les gendarmes font immédiatement des vérifications.
On a fait des recherches, donc, compte tenu de ce qu'il a bien voulu indiquer au service de gendarmerie en Suisse, en tout cas auprès de l'officier de liaison, pour voir si Joséphine Braun avait peut-être disparu.
Et on fouillait un petit peu dans les fichiers également, et en fait, Joséphine Braun, aussi bien en Suisse qu'en France, est totalement inconnue.
Les investigations vont laisser apparaître qu'en réalité, cette Joséphine Braun n'a jamais existé.
Mais qui est donc cet inconnu qui semble ne pas exister ? Le SDF aurait-il menti ? Cela en a tout l'air. Interrogé à nouveau sur les circonstances de l'accident, l'homme tient des propos de plus en plus décousus.
Il va fournir toujours une version très incohérente et très contradictoire, c'est-à-dire que d'une minute à l'autre, il peut vous indiquer qu'il a porté des coups à Joséphine ou à cette jeune femme, et puis la minute qui suit, indiquer que pas du tout, celle-ci a été battue par des inconnus.
Il y a un détail qui fait tiquer les gendarmes. Systématiquement, il dit « c'est pas criminel, c'est pas criminel ».
Non, c'est certain, ça.
Un comportement pour le moins étrange. Les gendarmes décident de placer Bernard Boulanger en garde à vue et interrogé, il nie toute implication dans le meurtre. Pourquoi cet homme mentirait-il sur l'identité de la victime ? Bernard Boulanger a-t-il quelque chose à cacher ? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident de perquisitionner son logement.
Les gendarmes vont procéder à une perquisition dans cette chambre, vont interroger les résidents, le responsable de ce foyer, et il va apparaître que Bernard Boulanger n'est pas réapparu au foyer depuis au moins 3 mois.
Les gendarmes ne retrouvent rien en perquisition qui pourrait indiquer une trace de vie d'une femme. Pas de papier, pas de vêtements féminins, pas de maquillage. Donc ils sont très perplexes.
Les enquêteurs rentrent les mains vides, mais Bernard Boulanger, avec ses mensonges et son comportement étrange, reste l'unique suspect dans le meurtre de l'inconnu du canal.
Un juge d'instruction va le mettre en examen pour meurtre. Malgré l'absence d'éléments probants, en se disant qu'on va garder ce client sous la main et il va être incarcéré.
Août 2008, une semaine après la diffusion de l'appel à témoins, nouveau rebondissement. Une femme d'une 60aine d'années, Béatrice Zeyer, se présente à la gendarmerie de Saint-Louis. Et elle est très inquiète.
Pour elle, peut-être que le corps qui a été repêché, suite à l'appel à témoins qu'elle a pu lire dans la presse, peut-être que ce corps peut être malheureusement celui de sa fille Sylvie.
La vieille dame explique qu'elle est sans nouvelles de sa fille, handicapée mentale, depuis près de 4 ans. À cette époque, elle avait même déjà déclaré sa disparition. Et Madame Zeyer de raconter aux enquêteurs la vie de sa fille.
Elle était en couple avec Daniel Eckert, qu'elle a d'ailleurs épousé en 2001. Ils se sont installés dans la maison maternelle à Ranspach-le-Haut. Et donc, ils vivaient une vie tout à fait paisible, harmonieuse, sans problème. Ce qu'elle peut dire, c'est que sa fille est invalide à 100%. En plus, elle explique qu'elle était très proche de sa fille puisqu'elle se contactait très régulièrement, elle se téléphonait, elle se rendait visite presque quotidiennement et que du jour au lendemain, eh bien, elle n'a plus de nouvelles d'elle.
La vieille dame raconte que fin 2004, Sylvie et Daniel sont brutalement partis s'installer dans une caravane sur un terrain vague de la banlieue de Nancy. Depuis, et malgré ses recherches, la vieille dame est restée sans nouvelles, jusqu'à il y a 3 mois, où un événement très étrange s'est produit.
Elle explique que son gendre est venu la voir quelques semaines avant la découverte du corps de cette femme.
Il lui a tenu un discours très incohérent, lui disant que Sylvie était en danger, qu'elle était retenue, qu'elle était séquestrée, et qu'il pensait qu'elle allait avoir des problèmes, qu'elle allait mourir.
Le comportement du gendre et son récit semblent tellement insensés que la vieille femme ne croit pas un mot de ce qu'il raconte. Devant les gendarmes, la mère de Sylvie Moechler est effondrée. Elle se dit persuadée que le corps repêché dans le canal est bien celui de sa fille. Pour en avoir le cœur net, Les enquêteurs décident alors de comparer l'ADN de la victime avec celui de sa mère supposée. Le 8 août 2008, les résultats de l'expertise génétique tombent.
Le retour de laboratoire est positif puisque les échantillons ADN de Mme Zeyer matchent avec ceux du cadavre, puisque c'était pour l'instant qu'un cadavre.
Donc c'est à ce moment-là, courant août 2008, qu'on identifie formellement le corps de Sylvie Moechler.
Sylvie Moechler avait 34 ans. Alors, qui l'a abattue à mort avant de la noyer? Et pourquoi? Grâce au témoignage de Béatrice Zeyer, sa mère, les gendarmes ont une piste. L'urgence est maintenant de retrouver Daniel Ecker, son gendre, le mari de Sylvie. Le 3 septembre 2008, après 3 semaines de recherche, les enquêteurs retrouvent la trace de Daniel Ecker. Il a trouvé refuge à 9 maisons dans un foyer pour adultes handicapés. Face aux gendarmes, l'homme paraît broyé.
Lorsque les enquêteurs se rendent sur place, ils indiquent que Daniel Eckert est encore dans un état de terreur, qu'il est traumatisé.
Daniel Eckert, qui ressemble pas à grand-chose, il a la peau sur les os, il y a des blessures partout, il est maigre, a l'air terrifié.
Et l'homme explique aux enquêteurs s'être réfugié dans ce foyer parce qu'il se sentait en permanence menacé.
Et il raconte qu'il a été fait prisonnier pendant 4 ans avec Sylvie Moechler et qu'il a subi des brimades pendant 4 ans, qu'il n'avait plus la possibilité d'aller et venir comme il le souhaitait.
Face aux gendarmes, Daniel Ecker se lance dans un long récit. Et ce qu'il va raconter est tellement effroyable qu'ils auront du mal à y croire. Tout aurait basculé en 2004. À l'époque, Daniel et Sylvie vivaient heureux dans une petite maison à Ranspach-le-Haut. Tous les deux déficients mentaux, ils étaient particulièrement vulnérables.
Elle a la mentalité d'une... presque d'une enfant. Elle est pas... c'est une femme, c'est, physiquement c'est une femme, mais au fond d'elle, c'est presque une petite fille qui joue à la poupée, par exemple. Ça, c'est ce que raconte son mari, Daniel Ecker. Il l'a déjà surpris en train de jouer à la poupée, par exemple, alors que c'est une femme adulte.
Daniel Ecker est quelqu'un de très serviable, très gentil, quelqu'un qui est très naïf malgré tout, hein, qui fait confiance, une confiance souvent aveugle, puisqu'il ne voit pas les conséquences et les prédateurs.
Les époux vivaient de petits boulots et de leur pension d'adultes handicapés. Mais Daniel raconte qu'un jour, des cousins éloignés, Gérard et Jean-Claude Hérette, sont venus leur rendre visite à l'improviste.
Daniel Ecker explique que à partir de fin 2004, Gérard Hérette va le persuader, le convaincre de le suivre avec sa femme, avec son épouse Sylvie, sur un terrain qui se situe donc dans la Meuse.
Ils emmènent à Thieu sous les côtes Daniel et Sylvie en disant à Daniel et Sylvie: mais vous verrez, on va vivre tous ensemble, ça va être super, on va mener une belle vie.
Gérard Hérette réussit à convaincre Daniel et Sylvie de venir s'installer à 300 km de chez eux, sur un terrain où tout le clan vit dans des caravanes. Le couple ne se doute de rien, mais en réalité, ils viennent de tomber dans un terrible piège.
Ce terrain, il a une configuration particulière, c'est qu'il est assez éloigné du village, donc on est dans la Meuse, c'est quand même assez désert. Il y a un champ qui se trouve juste à côté, donc tout est fait en fait pour isoler le couple.
Daniel Ecker raconte aux gendarmes qu'à partir de cet instant, lui et sa femme se sont retrouvés prisonniers.
Ils sont enfermés dans une caravane ils ne peuvent plus partir. Leur véhicule, les clés ont été prises par Gérard Hérette. La batterie de ce véhicule a été enlevée pour qu'ils ne puissent plus s'enfuir.
Le couple n'a plus de véhicule, se trouve dans un endroit isolé, n'ont plus accès à leur téléphone portable, ne peuvent plus passer aucun appel. On leur demande d'accomplir des tâches ménagères.
Et finalement, à ce moment-là, on leur ôte toute liberté et on s'en sert comme des esclaves.
Et ce n'est pas tout. En plus des tâches ménagères, les coups auraient commencé à pleuvoir. Tout semble être fait pour terroriser le couple.
Gérard Hérette, eh bien, sans raison, un matin, va porter une gifle extrêmement violente à l'endroit de Sylvie en lui disant bah, « ça, c'est la claque du matin ».
Et parfois, il s'amuse aussi à leur faire peur en cherchant à les traumatiser, en allumant des feux autour de la caravane, en secouant la caravane. Et bien sûr, ces personnes étaient enfermées dedans, elles ne pouvaient pas sortir.
Daniel et Sylvie se seraient retrouvés à la merci du clan, qui ne va pas tarder à les dépouiller de tous leurs biens.
On se rend avec eux sur les distributeurs à la banque pour récupérer les allocations chômage, les allocations Cotorep et finalement les extorquer de leur revenu mensuel.
Sylvie touche une pension, Daniel touche une pension. À eux deux, courant 2005-2006, ils rapportent quand même, bon an, mal an, 2000 euros au clan, 2000-2500 euros au clan.
Spoilé, coupé de tout, Daniel et Sylvie seraient ainsi devenus les souffre-douleurs de la famille Hérette. Et le récit de Daniel ne s'arrête pas là.
Daniel va parler aussi de rapports sexuels non consentis, donc de viol, hein, on appelle ça comme ça juridiquement, de viol à l'endroit de son épouse, puisqu'elle va lui dire qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée dans une caravane avec Jean-Claude Hérette, avec peut-être aussi Gérard Hérette, mais bon, il est incapable à ce moment-là de fournir plus de détails que ça.
Mais d'après le récit de Daniel, leur calvaire n'en était qu'au début. Car 6 semaines après leur enlèvement, Gérard Hérette et sa famille déménagent dans un appartement à Mulhouse. Daniel et Sylvie sont emmenés avec eux.
Le clan Hérette s'installe chez la fille de Gérard qui vit à Mulhouse avec son compagnon. Tout le clan s'installe dans un appartement de 100 mètres carrés, mais bon, très vite, l'appartement n'est pas assez grand pour tout le clan.
Il n'y a pas de chambre spécifique pour Daniel et Sylvie qui se retrouvent à dormir dans la salle de bain, à même le sol. Ils font l'objet d'un véritable esclavage. Ils se retrouvent finalement privés de nourriture, font l'objet de violences quotidiennes de la part de Gérard Hérette, qui, pour un oui ou pour un non, leur assène des coups de bâton, des coups de poing, ce genre de choses, des coups de pied.
Plusieurs fois, il va avoir le nez fracturé, les côtes fracturées, son épouse également.
Un jour, Sylvie repasse mal les affaires de Gérard. Ben, elle fait l'objet, malheureusement, de violences, d'actes de torture.
Celui-ci, pour la punir, s'empare du fer à repasser, qui est toujours en marche, hein, en action, retourne Sylvie et la plaque sur le canapé et lui appose le fer à repasser encore en marche sur les fesses et donc va la brûler.
Daniel Ecker raconte que pendant près de 3 ans, les tortures et les humiliations vont encore s'accentuer.
Daniel Ecker, on le fait dormir dans un placard. Il n'a pas de chambre, il n'y a aucun confort, il est enfermé.
On ne lui donne pas les moyens d'aller aux toilettes, il ne peut pas faire autrement, donc il urine dans une bouteille en plastique. Et lorsque Gérard Hérette s'en aperçoit le lendemain, eh bien, il va le forcer à boire son urine pour le réprimander, comme s'il s'agissait d'un animal. Enfin, je crois qu'on ne traite même pas un animal de cette manière.
Quant à Sylvie, elle était terrorisée et elle ne se contrôlait plus.
Elle était arrivée à un tel état de crainte, de peur de son geôlier qu'elle urinait. Elle urinait à sa voix, elle l'entendait, elle est traumatisée.
Gérard Rett ne trouve rien de mieux à faire donc avec ses complices que de lui retirer ses sous-vêtements parce que effectivement, bien, ça lui est beaucoup trop pénible et inconfortable que de lui changer ses vêtements et ses sous-vêtements tous les jours.
En mars 2008, après 3 ans de séquestration, les prestations sociales de Daniel et Sylvie diminuent. Gérard et Rett auraient alors trouvé un nouveau moyen pour combler cette perte d'argent avec l'aide d'Edmond, son fils.
Gérard décide de mettre Daniel dans la rue, de le faire mendier. C'est la nouvelle idée de Gérard. Daniel servira de mendiant.
Le matin, Daniel est emmené par Edmond et Gérard au volant de leur véhicule sur les parkings de supermarché et finalement reste dans le voisinage immédiat pour le surveiller de façon à ce qu'il ne s'échappe pas et qu'il puisse ramener suffisamment d'argent tous les jours pour nourrir le clan Eret.
Daniel Ecker raconte alors aux gendarmes l'événement qui va précipiter sa fuite. Le 29 avril 2008, la recette du jour n'était pas suffisante. Gérard Herrette décide alors d'employer les grands moyens.
Gérard le menace de le tuer, menace de lui trancher la gorge et s'arrête même au bord de la route en prétextant qu'il allait le tuer sur place.
Daniel prend la menace très au sérieux. Il est convaincu que Gérard est prêt à les tuer, lui et sa femme. Le lendemain, il profite d'un moment d'inattention d'Edmond, qui l'observe depuis sa voiture pour aller demander de l'aide.
Le dernier instinct de survie de Daniel, ce 30 avril, il décide de s'enfuir. Il décide d'un moment où, effectivement, il n'est pas surveillé pour s'enfuir, pour quitter le clan et tout quitter.
Totalement désorienté et paniqué, il trouve refuge dans une cabine téléphonique.
Il compose le 17 et au moment où il va entrer en relation avec les services de police, il dit qu'il aperçoit Gérard Herrette, donc à bord de son véhicule avec Edmond, en train de le chercher. Donc là, il se cache, il se dissimule, et c'est à ce moment-là que, tellement effrayé et terrorisé, il prend la fuite à pied.
La fuite éperdue de Daniel Ecker durera près de 15 jours. 15 jours où il va errer comme une bête traquée pour échapper à ses tortionnaires au hasard des routes.
Il marche pendant des heures sur les routes, il se déplace, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment il se nourrit, on ne sait pas comment il trouve de l'argent. Il ressemble à rien, c'est un vagabond. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est en plus apeuré, c'est-à-dire quand une voiture passe, il est à deux doigts de plonger dans le fossé pour pas que la voiture s'arrête. Il cherche pas, il fait pas de l'autostop, hein, il cherche pas à interpeller le regard des personnes qu'il croise sur la route. C'est la personne qui est apeurée, qui fuit.
Complètement terrorisé, l'homme n'ose même pas aller demander de l'aide à la police. Après 200 km de vagabondage, il se résout à aller frapper à la porte de Béatrice Zeyer, la mère de Sylvie, sa femme. S'il vous plaît. Daniel Ecker explique qu'effrayé, la vieille dame ne l'a même pas écouté. L'homme est catégorique, il ignore comment sa femme a été tuée, mais il est certain de savoir qui est son assassin. Pour lui, c'est forcément Gérard Herrette. Les gendarmes sont stupéfaits et très circonspects. Ils se demandent si l'homme n'a pas inventé cette histoire. Dit-il la vérité ? Pour le vérifier, il demande une expertise médicale. Le 9 septembre 2008, le docteur Criton examine Daniel Ecker.
Il dira dans son rapport qu'il n'a rarement vu dans sa carrière un homme en si mauvais état.
C'est quelqu'un de taille moyenne, mais très amaigri. Quelqu'un qui, visiblement, fait l'objet de malnutrition. Et on constate de nombreuses blessures et de nombreuses cicatrices sur son corps. Donc des plaies, des cicatrices sur l'ensemble du visage, le nez cassé qui, malheureusement, n'a pas été opéré et une déviation de la cloison nasale qui est fort apparente.
En fait, tout ce qu'il a pu raconter est corroboré par des éléments techniques, par des éléments physiques qui sont attestés par le médecin.
De toute évidence, l'homme a subi des sévices corporels pendant des années. Reste à vérifier la suite de son témoignage. Le clan Errette, les gendarmes le connaissent bien. C'est une famille de gitans semi-sédentarisés qui profite du système et vit de petites combines.
Les Errettes sont un peu dans tous les coups. Ils font de la cambriole, comme on dit.
On est dans une famille particulière qui vit vraiment en clan et qui a toujours réussi à profiter du système.
Après avoir vécu dans des caravanes, le clan s'est installé dans cet appartement à Mulhouse. C'est là que Daniel dit avoir été séquestré. Sur place, les gendarmes interrogent une voisine qui va leur faire une incroyable révélation. Dès l'arrivée des Errettes en 2005, Nathalie, cette voisine, remarque qu'un homme, l'air complètement terrorisé, est toujours avec eux. Il est régulièrement blessé et un jour, elle se décide à lui demander ce qui lui est arrivé.
J'ai jamais vu quelqu'un, comme dans un film, vous voyez, à la fin d'un match de boxe, un mec comme ça, même pas essuyer le sang, ce qui sortait de son nez et tout, même pas. Il avait un coton mal mis comme ça. Je lui parle, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, je suis tombé en vélo à Bourdevillers. J'ai dit, vous êtes tombé en vélo, mais si vous êtes tombé sous le visage? Il me dit, c'est pas grave, vous êtes tombé en vélo. Je suis tombé en vélo, c'est pas grave, il me dit.
Nathalie comprend que l'homme a peur et qu'il est sous la coupe de Gérard et de sa famille. La voisine décide donc de se rendre au commissariat pour prévenir les forces de l'ordre. Mais une fois sur place, face au policier qui la reçoit, elle tombe des nues.
Je lui expliquais que c'était quelqu'un qui était battu, qu'il se passait des choses atroces dans mon immeuble. Ils ne m'ont pas cru, ce policier. Il a appelé tous ses collègues pour se moquer de moi, carrément se moquer de moi. Je suis sortie de commissariat, je me suis effondrée dans la rue.
Pour les policiers, cette histoire est inconcevable. Pourquoi cet homme ne vient-il pas porter plainte lui-même s'il est maltraité? Un mois plus tard, la voisine remarque que Daniel dort sur le paillasson des Errettes. Et là encore, il semble terrorisé.
En fait, j'ai même pas la possibilité de monter même un demi-étage. Parce que dès que je mets le pied, que je sors de mon appartement pour mettre le pied sur l'escalier, la personne s'enfuit. Là, c'est clair, maintenant j'en suis sûre. La personne s'enfuit.
Un autre voisin va témoigner. Un jour, lui aussi est tombé sur Daniel qui gisait sur le palier. Choqué, il va raconter à Nathalie ce qu'il a vu.
Et il me dit, ah ben vous avez raison madame, il y a quelqu'un qui dort dans le couloir. J'ai trouvé un type en sang. En sang. Il était assis sur une serpillière avec un quignon de pain et un bol de café.
Les voisins appellent immédiatement la police, mais Gérard Errette, qui aurait entendu de l'agitation dans l'escalier, aurait pris la fuite avec le blessé.
Il le fait monter de la voiture, il dit celle-là, il a fait comme ça.
Mais quand les policiers arrivent, Gérard a déjà quitté les lieux. Un homme battu, forcé à dormir sur un paillasson, le témoignage de la voisine ressemble mot pour mot au récit que Daniel Ecker a fait aux policiers. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car en enquêtant sur la famille Errette, ils vont découvrir plusieurs affaires, pour le moins troublantes. Les services de police de Colmar connaissent très bien Gérard Errette. Malgré son casier vierge, le patriarche, comme on le surnomme, est le principal suspect dans de nombreuses affaires.
Un type qui en impose. Il a le regard froid, des petits yeux, un regard perçant.
Gérard Errette est quelqu'un d'impressionnant, qui a un fort gabarit, qui est musclé, qui a les bras tatoués, donc qui peut impressionner son prochain.
On sent qu'il est capable de violence, qu'il est capable probablement d'une rare violence. Il a une expression, d'ailleurs, qu'il utilise fréquemment. Il ne dit pas « je vais donner un coup de couteau », il dit « je vais couper ». C'est révélateur du fait que, pour lui, c'est un acte de la vie ordinaire.
Dans la famille, il y a aussi Edmond, le fils de Gérard. Souvenez-vous, celui qui surveillait Daniel au supermarché. À 22 ans, il possède déjà un lourd casier judiciaire. Incarcéré pour avoir poignardé un officier de police, il est aujourd'hui en cavale.
Edmond Welker est le portrait de son père. Il est le portrait de son père tant physiquement qu'intellectuellement. C'est un violent d'habitude. Il a un rapport avec les armes blanches qui est malsain. Chez lui, on ne se défend qu'à coups de couteau. On a un problème, on le règle à coups de couteau. On utilise le même langage que le père, c'est-à-dire « je vais te couper ». Et généralement, la menace est immédiatement suivie des faits et elle est ponctuée par un, voire plusieurs coups de couteau.
Dans les archives du commissariat de Colmar, les gendarmes découvrent que Gérard Hérette a déjà fait l'objet de plaintes. En 1993 et 1995, un couple d'handicapés mentaux avait déjà porté plainte pour racket et séquestration. Le nom des plaignants ? Christiane et Bernard Boulanger. Le même Bernard Boulanger qui avait répondu à l'appel à témoins sur le meurtre du canal.
De 1992 à 1999, Monsieur Boulanger était contraint d'aller mendier puisqu'il était hébergé chez Monsieur Hérette, qu'il forçait à mendier tous les jours devant les supermarchés, sur les parkings. Et en même temps, il était régulièrement roué de coups.
On voit que c'est le type, on peut lui demander de faire n'importe quoi. On peut lui demander, si j'ai envie, je le fais venir chez moi au bureau, je lui fais balayer le bureau tous les soirs, il viendra. Hein, pas de problème, sans rien me demander.
À l'origine de la plainte de Bernard Boulanger, son tuteur légal, qui remarque des traces de coups.
Boulanger dit au tuteur, j'ai été tabassé par des gamins, hein, pas des jeunes. Première fois, le tuteur va le croire. Mais quand, quelques temps plus tard, il revient avec des traces de brûlure de cigarettes, c'est quand même autre chose. Hein. Donc le tuteur insiste, et à ce moment-là, il lui dit, voilà, bon, ben, je suis hébergé chez M. Hérette, c'est lui qui m'a fait ça.
Il y avait effectivement des brûlures de cigarettes sur le corps de M. Boulanger, et il avait été menacé plus d'une fois avec une arme à feu par M. Hérette, qui lui mettait la pression.
Hérette se conduit en véritable sadique avec Boulanger, notamment une période. Chaque matin, il va le réveiller. Hérette est à côté avec sa montre. Et Boulanger, lorsqu'il est réveillé, en sursaut, doit s'habiller et faire son lit en 1h25. Sinon, il est tabassé.
Entendu à l'époque par les policiers de Colmar, Gérard Hérette avait une toute autre version des faits.
Il nie tout. Hein. Il nie tout. Lui, il ne se passe rien. Hein. C'est lui qui tombe. C'est ahurissant. Hein. Il ne se passe rien.
Terrorisé, Bernard Boulanger finira par se rétracter. Il est même, chose incroyable, retourné vivre avec la famille Hérette.
Ces procédures, ces plaintes avaient été classées sans suite parce que aucun élément n'avait pu être retenu concrètement contre M. Hérette. On se doutait que c'était lui, mais sans élément véritablement probant, celui-ci n'avait pas été inquiété.
Les gendarmes se posent alors une question. Gérard Hérette tire-t-il profit de personnes handicapées? Et depuis combien d'années? Désormais, il faut l'interpeller. Mais pour cela, les gendarmes vont prendre toutes les précautions. Début septembre, 5 semaines après la découverte du corps de Sylvie Moechler, les gendarmes retrouvent la trace du clan Hérette. Toute la famille a déménagé dans cette maison de Roppensviller, où ils vivent en vase clos.
Ils vivent reclus sur eux-mêmes. La maison à Roppensviller semble même barricadée. On fait une enquête de voisinage et les voisins indiquent qu'effectivement cette famille est arrivée fin avril, début mai 2008. Et que immédiatement, eh bien, la famille a mis en place des cloisons.
Dès lors, toutes les mesures de précaution sont prises pour effectuer un grand coup de filet.
Ils vont mettre en place un système de planque, hein, classique. Donc on va repérer les allées et venues de la famille Rett. Hein, parce qu'on sait quand même qu'on a affaire à du lourd. Hein. C'est peut-être des petits des bras cassés, c'est peut-être on s'attaque à de l'handicapé, à du marginal. Mais on sait qu'il y a de l'arme, on sait qu'on n'hésite pas à riposter, on n'hésite pas à tirer sur les policiers.
Et mardi 9 septembre 2008, c'est le jour choisi par les gendarmes pour procéder à l'intervention.
Commandant, c'est pas cool ! Commandant, à la marche !
Arrestation, c'est terminé.
6 heures du matin, on défonce la porte, on surprend tout le monde, on les sort du sommeil.
Gendarmerie nationale.
Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Tout le monde est interpellé.
Les gendarmes découvrent donc une bonne partie, donc la quasi-totalité même du clan Rett, et la présence de plusieurs armes qui sont d'ailleurs posées comme ça, à même le sol, à côté d'un escalier ou dans un couloir, sans vraiment de précautions particulières.
Une arme de poing, carabine, fusil, matraque, et d'autres ustensiles qui avaient servi à martyriser les victimes.
L'opération est un succès. Gérard Rett et les 9 autres membres du clan sont placés en garde à vue. Les auditions débutent et rapidement, le juge d'instruction chargé de l'affaire se heurte à une première difficulté, comprendre l'organisation de ce clan familial.
C'est Gérard Rett qui est désigné comme le meneur de ce clan.
Gérard est l'omnipotent patriarche de ce clan qui dirige tout, qui est un petit peu le grand gourou du clan Rett.
Et le juge constate qu'étrangement, tous les enfants de Gérard portent des noms de famille différents.
En fait, on se rend compte que tout est organisé pour profiter du système. Surtout pour que Gérard Rett profite du système. C'est-à-dire, c'est plus facile de soutirer des allocations quand on est mère isolée ou mère célibataire que quand on est femme au foyer avec son mari. Donc en fait, tous les enfants, les petits-enfants ont des noms différents. C'est pour ça qu'il y a autant de noms qui apparaissent dans la procédure. C'est presque gaguesque.
Gérard a fait reconnaître ses différents enfants par plusieurs membres du clan. Son gendre, sa compagne et même son propre fils, Edmond. Après plusieurs heures, le magistrat instructeur parvient à dresser un portrait du clan. Reste maintenant à déterminer les responsabilités exactes de chacun dans cette macabre affaire. En audition, tous vont accabler le chef de clan. Un par un, ils confirment les violences et les séquestrations. Pour eux, le seul responsable s'appelle Gérard Rett.
Chacun minimise pour sa part bien sa responsabilité dans les faits. Chacun indique que ah ben, non, moi je n'ai pas porté de coup, je n'ai pas vraiment participé à la séquestration parce que je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'une séquestration à ce moment-là. Je pensais que le couple était simplement hébergé.
Le clan est finalement d'accord sur une chose, c'est qui le chef, c'est qui l'instigateur, c'est Gérard.
D'après la bande, c'est Gérard seul qui aurait décidé de tuer Sylvie. Et s'ils n'ont jamais rien dit, c'est qu'ils avaient tous peur de ses représailles.
En 2008, Daniel Eckert réussit à s'échapper et reste sur les bras Sylvie Muchler. Alors Sylvie Muchler devient une personne encombrante dans la mesure où, sachant que son époux s'est évadé, il peut dénoncer. Et ensuite, financièrement parlant, elle n'est plus intéressante puisqu'elle ne perçoit plus d'allocation, donc elle ne rapporte plus rien.
Sylvie ne valait plus rien aux yeux du clan. Gérard aurait donc décidé d'éliminer la jeune femme. Interrogés sur la mort de Sylvie, deux hommes vont se montrer particulièrement loquaces, Edmond Welker et Bernard Boulanger. En audition, ils reconnaissent avoir participé au meurtre, mais sur ordre de Gérard. Entendu à son tour, le chef de clan nie farouchement les faits.
Lui n'a rien à voir avec cet assassinat et seuls Bernard Boulanger et Edmond Welker eh bien, ont pu faire disparaître Sylvie, puisque lui se trouvait à quelques pas auprès d'une pizzeria pour se renseigner sur les prix d'une pizza.
Que s'est-il réellement passé sur les bords du canal d'Alsace? Pourquoi et comment est morte Sylvie Moechler? Le juge mettra longtemps avant de le découvrir. Après 3 ans d'instruction, et en recoupant les différents témoignages du clan et de Daniel Ecker, le mari survivant, le juge parvient à établir un scénario du drame. Pour le magistrat, Gérard Hérette, Edmond Welker et Bernard Boulanger seraient les 3 assassins de Sylvie. Et voici comment se serait déroulé son calvaire. En 2004, Daniel et Sylvie auraient été enlevés par Gérard Hérette et les siens pour servir d'esclaves.
C'est sûr qu'il y a eu 4 ans de séquestration, de privation de liberté, de privation de nourriture, de sévices sexuels, de brutalité, de mendicité.
3 mois après la fuite de Daniel, le 25 juillet 2008, Gérard, Edmond et Bernard auraient emmené Sylvie au bord du canal pour la noyer.
On accompagne Sylvie au bord du canal d'Alsace. On la précipite dans l'eau et celle-ci réussit à crier, à se débattre.
Edmond Welker la sort de l'eau parce qu'il voit des passants et que Sylvie pousse des cris, donc il craignent d'être pris à ce moment-là et la ramène à la maison à Ruppensfiller.
De retour à la maison, Sylvie aurait alors demandé de l'aide à Odile, l'épouse de Gérard, en vain. Car rien n'arrêtera le chef de clan. Dès le lendemain, il aurait décidé de repasser à l'acte. Mais cette fois, pour mettre Sylvie en confiance, il lui aurait promis de la ramener chez sa mère.
Vous imaginez un peu la pauvre Sylvie après 4 ans de vie avec des tortionnaires, se dire « enfin je vais être libre, enfin je vais revivre ». Bah non, il la ramène pas chez elle.
Et donc là, il n'est plus question d'échouer. Il faut aller jusqu'au bout.
Et c'est dans le garage de la maison que l'ultime cauchemar de la jeune femme aurait débuté.
On la conduit dans le garage de Ruppensfiller, où elle sera battue, tant par Gérard qu'Edmond et Bernard Boulanger.
À l'aide de coups de poing, de coups de pied, de coups de bâton. D'ailleurs, on a retrouvé des bâtons et un tuteur abîmés dans ce garage.
On pense effectivement que le fait de l'avoir battue, c'était tout simplement pour que cette fois-ci, Sylvie ne puisse pas se débattre une fois arrivée au bord du canal.
Gérard Hérette, Edmond Welker et Bernard Boulanger auraient ensuite pris la direction du Grand Canal et se seraient arrêtés en route.
Gérard emmène Sylvie dans le bois, prétextant, d'après ce qu'il explique dans sa dernière version, d'aller ramasser des pommes de pin pour un barbecue.
Gérard traîne Sylvie dans la forêt, la tabasse à coups de bâton, à tel point qu'elle perd connaissance.
Au bout de 5-10 minutes, il revient, dit à Edmond, écoute, tu peux aller la chercher. Edmond va chercher Sylvie, qu'il croit morte, il la porte. Il la met sur le siège arrière de la voiture, ceinture de sécurité, une casquette sur la tête, et on repart direction le canal. Et là, elle sera précipitée dans les flots.
Seulement, ce que les 3 hommes n'avaient pas prévu, c'est que 2 semaines plus tard, le corps de Sylvie va réapparaître. Il fera même la une des journaux.
Il commence à paniquer déjà et à se dire il faut trouver quelque chose, il faut noyer le poisson.
En fait, Gérard Hérette a peur que la victime, sa cousine par alliance, soit identifiée et que les policiers fassent le lien avec lui. Alors, il a une idée.
Il est demandé à Bernard Boulanger d'aller à la gendarmerie la plus proche et de faire une déclaration sur la disparition d'une personne, une certaine Joséphine Braun, qui serait une amie à lui, une Suissesse, qui aurait disparu dans le canal.
À l'issue de l'instruction, Gérard Herrette, Edmond Velker et Bernard Boulanger sont poursuivis pour assassinat, séquestration et actes de torture et de barbarie. Les sept autres membres du clan sont poursuivis pour complicité. Le 17 janvier 2012, c'est le procès de l'horreur qui s'ouvre devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Pendant près d'un mois, les 10 membres du clan vont être jugés pour des faits d'une gravité hors norme.
La cour d'assises à Colmar est pleine et remplie. On veut voir, on vient au spectacle. On veut voir cette misère, on veut la sentir.
Tout le monde veut comprendre qui sont ces gens qui ont choisi de s'attaquer aux plus vulnérables. Dans le box, les 3 principaux accusés. À commencer par Gérard Herrette, le chef des tortionnaires, imperturbable.
Il est le même qu'il l'a été au cours de l'instruction, toujours impassible, le regard fermé et ne laissant pas transparaître un quelconque remords vis-à-vis de ce qu'il a pu faire subir à ses victimes.
Aux côtés de Gérard, son fils Edmond et Bernard Boulanger ne semblent pas réaliser la gravité des faits qu'on leur reproche. Sur le banc des parties civiles, Daniel Ecker, le mari de Sylvie, toujours aussi apeuré et traumatisé, ne quitte pas son avocat.
Dès qu'il y a une suspension d'audience, par exemple, et que son avocat n'est pas là, il vient nous demander l'autorisation pour s'absenter, par exemple, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, ce qui est quand même assez édifiant. Donc on sent vraiment quelqu'un qui est totalement soumis, qui est complètement cassé.
Au fil des débats, la salle découvre l'effroyable organisation du clan.
Avoir monté, entre guillemets, l'entreprise qu'il a montée de mendicité Enco, si je puis me permettre, c'est tout bonnement incroyable. C'est-à-dire qu'il a passé 25 ans de sa vie à faire travailler des gens qui étaient dans des situations difficiles pour finalement son propre intérêt.
Avec 10 accusés et une dizaine de chefs d'accusation, il faudra plus de 2 semaines à la cour pour exposer les faits. À la fin, Gérard, qui est resté totalement insensible à la succession de témoignages accablants, se lève.
Il va parler d'une voix calme mais assurée, en disant « Écoutez, c'est moi le chef de clan, c'est moi qui ai dit de faire ci, c'est moi qui ai dit de faire ça, et les autres n'ont fait qu'obéir. »
Et il endosse tout. Il endosse la responsabilité du crime de Sylvie Mutchler. Il reconnaît la séquestration de Sylvie et Daniel. Et il reconnaît aussi les actes de torture et de barbarie.
Après 3 semaines d'audience, l'avocate générale requiert la perpétuité contre Gérard Herrette. Pour ses 9 complices, elle demande 118 années de peine de prison cumulée. Après 12 heures de délibéré, la cour et les jurés rendent leur verdict.
Gérard Herrette est condamné à 30 années de réclusion criminelle assortie d'une peine incompressible de 20 années. Edmond, son fils, est lui condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et enfin, Bernard Boulanger, qui a une participation très active dans cette affaire, mais qui a été, et je crois que les jurés ne l'ont pas oublié, d'abord victime avant d'être et de devenir bourreau, a quant à lui été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
Les autres membres de son clan sont sanctionnés par des peines de 5 à 12 ans d'enfermement. Dans son box, Gérard Herrette, le patriarche, ne montre aucune réaction. Il est reconnu coupable d'assassinat, de tentative d'assassinat, de séquestration, d'extorsion avec violence et d'exploitation de la mendicité. Il n'a pas fait appel de sa condamnation. Sylvie Mutchler a été assassinée à l'âge de 34 ans, simplement parce qu'elle était trop faible. Parmi tous les membres du clan Héret, Edmond Véclair est le seul à avoir fait appel de sa condamnation du 10 février 2012, à savoir 20 ans de prison. Un jugement confirmé par la cour d'assises du Bas-Rhin en septembre 2013.